Qu'est-ce qui vous a mené ici, chasseur de trésors?
Cadenas directionnel et Lampe UV, Jessica Leb avec vous pour ce magazine estival et hebdomadaire consacré aux jeux d'évasion, toujours en compagnie de Marc Raymond. Bonjour Marc.
Salut Jessica.
Et vous le savez, on découvre cette industrie des jeux d'évasion chaque semaine à travers une nouvelle facette, un profil qu'on aime dans les jeux d'évasion. Cette semaine, on consacre l'émission au tourisme de jeux d'évasion. Alors tourisme parce que les joueurs peuvent parcourir des kilomètres pour aller jouer et accomplir différentes missions, mais aussi parce que les entreprises de jeux d'évasion ainsi que certaines villes au Québec ont compris, certaines institutions aussi ont compris que le jeu d'évasion pouvait être une belle façon d'attirer une autre clientèle dans leur musée, par exemple. On le verra aujourd'hui avec différents exemples qu'on va vous donner à travers le Québec. Mais pour commencer, on va être très local. Avant ça, on rappelle toujours ce que c'est un jeu d'évasion. On essaie de se réinventer à chaque fois pour vous donner cette définition et vous donner envie d'y aller. Marc, encore une fois, maintenant que je te lance le défi à toutes les émissions, c'est toi qui vas nous expliquer c'est quoi un jeu d'évasion.
Bon, ben, ma description risque de ressembler à celle de la semaine dernière. Mais bon, donc, jeu d'évasion, habituellement 60 minutes, pas dans le cas de nos prochains invités. Mais donc, vous avez un temps imparti pour réussir une mission. Entre vous et la réussite, il y aura une série d'embûches, d'énigmes à résoudre. Jamais rien qui demande la force physique, ça demande la force de vos neurones. Donc, vous allez faire des manipulations, réfléchir beaucoup, avoir beaucoup de plaisir et, avec de la chance, réussir à sortir à temps.
Des missions thématiques qui dépassent l'imagination les plus farfelues de certains créateurs. On vous donne toujours des exemples, mais on peut s'évader d'une prison, on peut éradiquer une pandémie avec des zombies qui rôdent autour, on peut aller débusquer un secret d'une pyramide ou d'une tombe. Bref, vraiment, toutes les missions sont possibles et inimaginables. Et cette semaine, avec le tourisme, ce qui est intéressant, c'est que tout dépendant de l'endroit qu'on va visiter, ben on a décidé de créer un jeu d'évasion autour de ça. Alors partons de Québec, c'est notre point de départ pour aujourd'hui. La commission des champs de bataille a fait appel à Double Tour, entreprise de jeux d'évasion, pour concevoir un jeu d'évasion à la Tour Martello 4. Et rien que de trouver cette tour dans Québec, c'est une mission parce qu'elle n'est pas sur les plaines d'Abraham. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités, Luc-Nicole Labrie, coordonnateur de la médiation historique à la commission des champs de bataille. Bonjour.
Bonjour.
Également avec nous, Maxime Béchard, concepteur ludique pour À Double Tour.
Bonjour.
Donc c'est toi, pas mal, qui a travaillé sur ce jeu.
Pas mal, ouais, un gros travail d'équipe.
La tourmenteuse, hein, qui a ouvert courant juillet sur les plaines. Pas sur les plaines. Ça, c'est le piège. C'est le piège et je me suis fait avoir, évidemment. Je ne connaissais pas mon histoire jusque-là. La tourmenteuse qui se trouve dans la tour Martello 4, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste. Peut-être, nous situer un petit peu, Luc-Nicole. Pourquoi elle n'est pas sur les plaines d'Abraham, cette tour-là?
Ben, je vais dire au niveau historique, techniquement, elle était sur les plaines ou ce qu'on appelait les hauteurs de Québec. Hein. Les tours ont été construites, il y en a quatre d'abord qui ont été construites à Québec. Elles ont été construites entre l'année 1808 et l'année 1812, ces quatre tours-là. Elles sont numérotées 1, 2, 3 et 4. La numéro 1, c'est celle qu'on est habitué de voir, je dirais, quand on pense au Martello. Ceux qui connaissent ça un peu pensent aux plaines. Donc, celle qui voit, qui est sur les plaines, sur le bord de la falaise, ça, c'est la tour numéro 1. Il y a la 2 qui est pas très loin, sur la rue Taché, coin Wilfrid Laurier, donc à peu près en ligne droite. Et si on descend, on s'en va jusqu'au bout de Saint-Jean-Baptiste, on arrive sur la rue La Vigueur, pardon, j'allais dire l'Angelier, on est un peu trop loin, mais on arrive sur la rue La Vigueur, eh bien, on arrive à la tour Martello numéro 4. Donc, il y en avait 4, la 3 n'existe plus, vous pouvez la chercher, bonne chance. Ça devrait faire partie du jeu, ça, d'ailleurs.
Oui, non, mais... quelle mission!
Oui, donc, mais elle n'existe plus, elle est à peu près au coin, aujourd'hui, de Clairefontaine et René Lévesque, pour situer les gens. Donc, ça faisait partie d'une idée que les Britanniques avaient pour occuper les hauteurs de Québec, donc pour faire une première ligne de défense face à une éventuelle attaque américaine. Donc, on est juste avant la guerre de 1812. Grosse, longue introduction pour dire que c'était les tours défensives qu'on a eues, qui ont un peu plus de 200 ans ici à Québec.
Mais comme je disais, rien que de la trouver, moi j'étais très surprise parce que j'ai l'habitude de me promener dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste, mais je me rends jamais aussi loin. Hein. C'est un quartier résidentiel. Tout autour, vous allez avoir des appartements. On va pouvoir descendre la côte aussi à un moment donné. Bah, racontez-nous, Commission des champs de bataille, pourquoi avoir choisi un jeu d'évasion comme activité à la tour Martello 4?
C'est toujours un défi d'essayer d'occuper un site patrimonial à l'année. Nous, on se rendait compte déjà que ce qui occupe les tours Martello durant l'année, puis je vais dire essentiellement durant l'année scolaire, ce sont les activités pédagogiques qu'on offre déjà, où là, on a un guide qui s'en va interpréter un officier du régiment Royal Artillery, donc le régiment Royal Artillerie, le régiment britannique qui a occupé les tours. Et là, ils vont présenter l'histoire à des visiteurs. Mais là, on se retrouve l'été, on se pose un petit peu la question, comment est-ce qu'on va occuper cette tour-là pour la faire profiter, pour que des gens puissent venir en profiter de cette tour-là, apprendre à la découvrir un peu, du moins à la visiter. On offre déjà, durant l'été, une visite, je vais l'appeler plus classique, à la tour Martello numéro 1, avec panneau d'interprétation et tout. Donc, la tour 4, il fallait trouver une activité différente. Puis, ça faisait différentes tempêtes d'idées qu'on a eues. On avait des scénarios, et un de ces scénarios-là, ça a été de faire un jeu d'évasion. Et puis, quand il y a des rapprochements qui se sont faits avec à double tour, ben, on s'est rendu compte que ça pouvait être quelque chose de possible, que ça pouvait être quelque chose d'intéressant. C'est là qu'un peu le projet est né.
Est-ce que vous aviez déjà fait des jeux chez À Double Tour avant de les contacter, par exemple?
On a des gens dans l'équipe qui avaient fait des jeux. Moi, personnellement, non, mais on a des gens dans notre équipe qui avaient fait des jeux. C'est une des raisons aussi pourquoi on les a contactés à ce moment-là, À Double Tour. On pensait que le genre de jeu qu'ils offraient pouvait bien se prêter à ce que la tour était. Puis je pense qu'ils ont vu la même... rapidement, quand on leur a expliqué la tour, puis ce qu'on voulait, je pense qu'ils ont vu rapidement ce même genre de possibilités-là qu'on réalisait.
Et ce genre de jeu d'évasion dans des monuments historiques, par exemple, est très répandu en Europe désormais. Donc, c'est chose courante. Mais là, à Québec, c'était une première. Alors, on va revenir sur l'histoire de la tournanteuse quand même. Une tour, 3 étages. On plonge dans les secrets de la famille Marcoux qui a résidé dans cette tour Martello 4. Alors, attendez bien à l'extérieur parce que l'entrée dans cette tour est bien importante. On arrive au début du 20e siècle, accueilli par l'un des membres de la famille Marcoux, et on va devoir trouver le mystère autour de cette famille parce qu'elle n'a pas bonne réputation dans le quartier. À travers ces 3 étages, on traverse 3 époques aussi, 1759, 1812 et 1908. Moi, j'ai envie de savoir, Maxime Béchard, pour À Double Tour, comment vous avez collaboré ensemble avec la commission des champs de bataille pour créer les énigmes et le scénario aussi, parce que j'imagine que votre défi de taille cette fois-ci, c'était d'être fidèle aux faits historiques réels et quand même apporter un petit peu de fiction, parce que des fois, il a peut-être fallu romancer des choses.
Absolument. Je pense que le mot romancer, c'est un mot assez important dans tout le processus de création qu'on a suivi. Ça a été une très intéressante partie de ping-pong, en quelque sorte, où est-ce que on arrivait avec des propositions, on proposait à l'équipe de la commission qui, eux, prenaient ce qui se trouvait le plus intéressant, le plus riche, ce qui avait le meilleur potentiel en termes d'histoire, là, historiquement. Puis à travers ça, on recevait la suite, on fignolait, on construisait autour. Fait que ça a vraiment été une construction collaborative quand même très serrée. Puis un beau défi, évidemment, là, sur tous les points scénaristiquement, même en termes d'énigmes, on arrivait avec des propositions. On disait maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre cette énigme-là viable historiquement, pour que les gens qui connaissent l'histoire fassent comme « Hey, c'est vrai ça! » Baser ça sur des assises vraiment ancrées dans le réel. On a toujours un gros souci du réalisme chez À Double Tour, mais on se garde une bonne licence artistique. Mais là, c'était vraiment plus précis et pointilleux. Mais heureusement, on a une super bonne équipe pour nous accompagner là-dedans.
Mais la commission des champs de bataille, j'imagine qu'il a fallu peut-être parfois lâcher prise sur certains détails historiques pour que ça aille mieux dans l'histoire de la tourmenteuse.
Je dirais que c'est à deux niveaux. Le premier niveau, en fait, c'est d'arriver puis de se dire, OK, on veut avoir une énigme, c'est-à-dire une histoire qui se tient. Il fallait avoir une trame narrative. Nous autres, c'était bien important pour nous. Puis je pense que chez À Double Tour aussi, on avait ça. On voulait une trame narrative qui se tient. Mais c'est beau de partir d'un fait historique. Par exemple, le fait que William Marcoux, quand on parle de lui, on a évoqué son nom déjà, c'est un agent de la paix qui a vécu à Québec, qui a pratiqué son métier de policier à Québec, mais qui a aussi habité dans la tour réellement à peu près de 1893 jusqu'à 1900. Ben, en fait, jusqu'à l'année de sa mort, lui, il est décédé le 31 décembre 1901. Donc, lui, il a habité réellement dans la tour 4. Donc, il fallait partir de ce type-là qui a réellement habité là, puis essayer de découvrir, en fait, qu'est-ce qui pouvait faire en sorte que William Marcoux avait des liens. On a réussi à trouver ces liens-là avec la tour Martello, non seulement à l'époque du tournant du 20e siècle, mais aussi au 19e, donc à l'époque de la construction, puis on pouvait même remonter plus tard, en fait plus loin. Mais à partir du moment où on a trouvé ces liens-là, ben c'est pas garanti que ces liens-là vont nécessairement mener à une intrigue qui va pouvoir déboucher sur des enquêtes. Sur une enquête ou en fait sur de la réflexion qui serait propre, typique d'un jeu d'évasion. Donc là, c'est là que qu'on a essayé de faire à chaque fois qu'il y avait une proposition d'À Double Tour, c'est de dire OK, voici notre réalité historique, voici la proposition, donc où est-ce qu'on essaie de s'en aller. Maintenant, d'un point de vue historique, comment est-ce que ça se pourrait? Comment est-ce qu'on peut venir, mettre ça en relation, en perspective? Tu sais, exemple, on a, je vais essayer de sans vendre toutes les informations puis donner trop d'indices à nos visiteurs, mais tu sais, si on parle, par exemple, d'une quantité de nourriture qui pourrait être consommée, ben, il fallait, pour nous, ce qui était important, c'est de se baser sur une quantité de nourriture qui était réaliste, qui soit consommée.
Pour l'époque, oui.
Voilà. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça amène un défi de faire en sorte que l'énigme existe, mais que plutôt que d'arriver avec des chiffres, je dis ça, qui fonctionneraient dans l'énigme, ben on essaie de faire fonctionner l'énigme avec les chiffres historiques. Je sais pas si vous voyez un peu, si vous me suivez. Bref, c'est un peu ça, ça a été un peu ça le défi. Puis heureusement, je pense que tout le monde, on a eu une belle collaboration pour s'envoyer la balle là-dessus, puis qu'on arrive à un produit fini assez intéressant.
Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce jeu, La Tourmenteuse, puisqu'on a eu l'occasion de l'essayer, bien évidemment, avec Marc, c'est que inconsciemment, on ingurgite des informations historiques. Là, l'exemple que tu donnes sur la nourriture, ben inconsciemment, c'est ce qu'ils mangeaient à l'époque, puis on n'est pas toujours conscient que ben, c'était pas si varié que ça, par exemple, ce qu'on mangeait, faute de techniques de conservation, surtout dans cette tour Martello. Donc là, après coup, je réalise, OK, c'est ça l'information que j'ai eue, mais pendant le jeu, évidemment, on n'a pas du tout l'impression d'avoir un cours d'histoire. On va continuer cette entrevue sur la tourmenteuse, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, notamment sur les défis pour concevoir et installer un jeu d'évasion dans un monument historique, parce qu'on n'a pas une pièce toute carrée ou des murs qu'on peut bâtir à notre gré. On a vraiment conservé le monument tel quel. On vous en parle dans quelques instants dans la suite de Cadenas directionnel et Lampe UV. retour dans Cadenas Directionnel et Lampe UV, Jessica Leb, toujours au micro sur les ondes de CKRL. Aujourd'hui, on vous parle du tourisme lié au jeu d'évasion, que vous fassiez des kilomètres pour aller jouer dans différents jeux d'évasion, que ce soit au Québec ou d'ailleurs à l'extérieur de la province. Mais même à Québec, on peut réapprendre des choses sur l'histoire de sa propre ville ou carrément les découvrir. C'est ce qu'on voit depuis le début de cette émission avec la tourmenteuse mission proposée par la Commission des champs de bataille au sein de la Tour Martello 4, un scénario qui a été réalisé en collaboration avec À Double Tour, entreprise de jeux d'évasion. On parlait de la frontière entre faits historiques réels et fiction pour bâtir un scénario autour d'un monument historique, ici la Tour Martello 4. J'ai très envie de savoir du côté d'À Double Tour, Maxime Béchard, notre invité, que tu nous expliques quelles ont été les contraintes pour concevoir et installer un jeu d'évasion dans un monument historique, puisque comme je le disais avant la pause, on n'a pas une salle qu'on peut modeler selon nos envies. Là, on a un monument qui est là, on a un décor qui est fantastique, ça aussi on tient à le dire. Nous, on a découvert vraiment un lieu qui, en soi, nous fait voyager. Vous devez vous adapter à ce lieu-là.
Absolument. On a quand même eu la chance d'avoir une certaine, pas table rase, mais presque, parce qu'à la base, dans la tour, il y avait déjà des installations sur place, puis on a quand même eu la chance de pouvoir retirer certains éléments pour élargir un peu le champ de jeu puis nous permettre d'installer le plus de contenu nouveau en quelque sorte. La commission, ça a été une source incroyable là, de toutes sortes d'éléments de décor qu'on demandait des choses des fois. On a comme eu beaucoup de bulles au cerveau, dans le bouillonnement créatif. Moi, je me souviens dans les débuts quand on parlait de la tour. On se regardait avec des brillants dans les yeux en se disant « On est dans la tour, est-ce qu'on peut avoir un canon? Ce serait fou qu'on ait un canon. » Puis comme de fait, on se dit « Ouais, ça se fait. Wow! » On a été transportés. Puis tu sais, à partir de là, pas mal toutes les demandes, en fait, ont été reçues et réalisables. Puis quand c'était pas le cas, c'était vraiment des modifications. Puis on en parlait tout à l'heure là, du compromis entre l'histoire et le jeu, l'aspect ludique. Mais je dirais que on a aussi une bonne équipe de scénographes qui se sont appliqués quand même avec beaucoup de travail pour faire de la recherche puis trouver les éléments puis tout ce qu'ils devaient faire fait sur mesure l'était fait avec le souci du détail qu'on se targue d'avoir chez À Double Tour. Mais c'est ça, fait que ça a été un défi partir du lieu pour ensuite qu'on fait la conception, mais en général, il n'y a pas eu trop d'accrocs. Ça s'est super bien déroulé.
Mais exemple, on est dans la tour Martello 4, on fait un voyage, comme je le disais, à travers trois époques, 18e, 19e et 20e siècle, des câbles. Vous avez forcément des technologies dans cette tour qui ne correspondent pas à l'époque, il faut pouvoir les cacher. On a des haut-parleurs pour l'ambiance sonore. Comment vous jonglez avec ça? Parce que dans une tour, encore une fois, c'est plus difficile à cacher.
Oui, tout ça, c'est la magie de la scénographie qui opère, rendue là. Puis après, veut pas le milieu de jeu d'évasion se technologise, disons, j'invente des mots, je m'excuse, mais de plus en plus, donc ça fait un peu partie de la game d'apprendre à bien camoufler tout le filage, tout l'arrière-décor, en quelque sorte. Fait que ça se fait avec des caisses, des barils, des tonneaux, des choses qui sont là, qui remplissent l'espace sans trop en manger, sans trop faire perdre du lieu aux gens.
Bien que ça soit très vaste.
Oui, en plus.
C'est immense, cette tour Martello 4.
Vraiment.
Et alors parlons du maître de jeu maintenant, parce que nous on a été agréablement surpris. On est dans la dynamique d'À Double Tour, il y a toujours un personnage qui nous accompagne dans notre quête, mais là le maître de jeu reste avec nous tout au long de l'aventure pour ne pas brûler les étapes. Notamment, on aurait envie de faire les trois étages d'un coup, mais non, vous allez être guidé par ce personnage qui, je le rappelle, est un membre de la famille Marcoux, qui cherche à savoir qu'est-ce qui se passe dans sa famille, pourquoi cette famille a aussi mauvaise réputation, notamment dans le quartier où elle se trouve. Comment vous avez joué là-dessus aussi, parce que un maître de jeu, donc c'est un membre de la famille, il faut que il soit crédible. Vous travaillez souvent avec des comédiens, donc là-dessus on s'inquiète pas, mais en même temps, c'est ça, faut pas qu'il en dise trop pour que l'équipe cherche quand même par elle-même, et en même temps, faut qu'elle sache être discrète dans le jeu. Comment vous avez trouvé cet équilibre?
Oui, ça, c'est une ligne qui est très fine à traverser là, parce que ça a été un des points justement où il a fallu qu'on trouve l'équilibre parfait. Puis encore là, il y a toujours du fine-tuning à différents points. Veux pas, les les animateurs et les gens qui sont sortis du domaine des arts sont très empathiques. Donc, quand ils sentent qu'un groupe commence vraiment à se buter, il y a ce désir de vouloir les aider qu'il faut quand même garder en sourdine un peu pour laisser aux gens le plaisir de vivre les découvertes par eux-mêmes. Puis le fait d'être présent tout le temps, ça peut être un piège aussi. On s'attache à ces chers participants, même en intervenant trois fois durant un scénario. Là, le fait d'être présent tout le temps, à un moment donné, t'sais, c'est sûr, faut lutter là, contre l'envie de suivre. Puis je sais aussi que le simple fait qu'à la base, ce sont des guides, donc qui animent, c'est pas des maîtres de jeu de chez à Double Tour, mais c'est des gens qui travaillent à la commission puis qui font des visites guidées, tout ça. Fait que, de leur côté aussi, j'imagine qu'il y a une adaptation à faire.
Ça a été une bonne adaptation, puis je pense que ça l'est encore parce qu'en effet, la plupart, c'est en effet les maîtres de jeu de la tourmenteuse, ce sont à la base des guides puis des animateurs. Donc, la partie animation, la partie faire un personnage, nous autres, c'est un peu notre signature à la Commission des champs de bataille que de faire ça dans nos animations. Donc ça, on n'avait pas vraiment peur pour ça. Mais en effet, la partie de sortir d'un canevas dirigé, parce que dans le fond, quand t'es un guide, quand t'es un animateur, c'est toi le maître de tout ce qui se passe et c'est dans le fond, les gens n'attendent que tes informations pour avancer. Et il a fallu un peu déprogrammer nos guides pour les mettre dans un état d'esprit de jeu d'évasion, justement pour que à chaque étape puis à chaque moment, ils soient pas en train de prendre la personne par la main puis de dire oui, c'est par ici qu'il faut que tu t'en ailles, c'est par là qu'il faut que tu t'en ailles. Donc c'est ça, l'aspect théâtral entre guillemets ou l'aspect interprétation du personnage de essentiellement qui sont les enfants. En fait, c'est la fille de Monsieur Marcoux qui a vécu et c'est le donc son genre. Théophile, que les joueurs vont pouvoir rencontrer, ben eux, ce sont aussi des vraies personnes, donc qui ont une implication émotive par rapport à ça. Donc ça va teinter leur jeu et ça va leur permettre justement d'aider correctement les gens. Mais l'autre défi, et je pense que Jessica, tu en parlais bien, c'est que c'est un des rares jeux où le maître de jeu est tout le temps avec le groupe. Nous, il y avait une question, il y a une question de sécurité, il y a une question de bâtiment patrimonial, il y a une question aussi de cohérence dans le jeu. Donc en effet, il faut faire un étage à la fois, il faut faire une époque à la fois, puis si on se mettait à prendre n'importe quel indice puis aller sur n'importe quel étage, les joueurs seraient complètement perdus. Donc, c'est vraiment je veux dire qu'il y a du bon, mais il y a un vrai défi de faire en sorte que les joueurs qui sont pas habitués d'être chaperonné tout le temps comme ça, ben accepte finalement puis oublie même qu'il y ait quelqu'un avec eux. Mais je pense que la recette est pas mal là.
Oui, parce que s'ils l'oublient pas, il y a la facilité de toujours aller vers le maître de jeu aussi pour limite valider chaque étape que tu fais. T'es toujours porté à aller la voir, dire hey, est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est faux. Ça devient facilement une béquille là si on se laisse aller.
Absolument, mais je pense que la façon dont on l'a joué, c'est qu'il y a des documents qui doivent être accessibles et l'information même officiellement, ce que le maître de jeu est prêt à révéler, c'est que lui, dans le fond, il sait pas trop ce que son ancêtre faisait. Hein? Fait que oui, il y a une idée générale de pourquoi, de qu'est-ce qu'il faisait là. Mais donc, oui, il est là, mais il est aussi curieux. C'est émotivement pour lui, là, c'est très fort ce qui est en train de se passer. Sa famille, enfin, va peut-être, il va savoir la vérité. Donc, c'est un peu ça l'idée, je pense, derrière tout ça.
On salue le travail, On salue Mélina Marcoux, tout simplement, qui nous a accompagnés dans notre jeu. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Elle avait trouvé vraiment l'équilibre entre nous aider un peu, pas nous en dire beaucoup. Puis c'est vrai que parfois, certains de nos joueurs disaient, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Disaient, moi, c'est la première fois que je viens dans la tour, là, j'en sais pas plus que vous. Et c'était crédible. Moi, je la croyais du début à la fin. Faut savoir que c'est un jeu qui dure 1h30. C'est assez unique comme durée au Québec et même à l'international pour l'avoir peu vu ailleurs, dans les pays que je connais. Et pourquoi 1h30? On peut se poser la question, ça peut paraître extrêmement long. Habituellement, dans le jeu d'évasion, on est dans 60 minutes.
La principale cause, c'est l'immensité des lieux. En fait, on a un grand espace. Puis chez nous, chez À Double Tour, on a une mentalité que un petit espace bien meublé va toujours être plus payant qu'un grand espace, mais moins, avec des objets parsemés, disons, avec moins de quantité. Fait que ici, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On a littéralement l'équivalent de trois pièces, de trois scénarios différents là, dans l'ensemble des lieux. Fait que c'est un peu venu aussi. Ben, je pense que c'était votre désir aussi à la commission là, que ça dure 1h30. Mais quand on a vu ça, on a dit c'est parfait. C'est en plein ce que ça nous prend dans ce cas-là. Puis ça nous permet de bien séparer là, le pacing de l'activité là, en termes de temps. 1h30, trois pièces. une demi-heure chacun environ. Tu sais, ça nous a donné des bonnes balises pour construire ensuite le scénario.
Ça aurait même pu se rendre à 2 heures. On aurait eu du plaisir pendant 2 heures dans ce jeu-là. Là.
Marc dit ça parce qu'on n'a pas réussi. On aurait bien pris une demi-heure de plus.
On n'a pas réussi, mais on s'est amusé pendant 1h30. Le pacing était vraiment bon. On n'a pas l'impression d'avoir été particulièrement lent. On a pris le temps d'apprécier les décors. Donc, c'est pour ça que je dis, il y avait du stock en masque. Même jouer là-dedans pendant 2 heures, là, ça aurait été parfait.
Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait d'autres groupes qui jouent. On n'a pas trop le choix. D'ailleurs, avant de préciser justement comment vous allez pouvoir jouer à la Tourmenteuse, parce que c'est un jeu qui vous est proposé jusqu'au 13 octobre, profitez-en. J'ai envie de demander à la Commission des Champs de Bataille, nous, on voudrait saluer le travail que vous avez fait autour de cette initiative qui est géniale. On espère qu'elle existera dans d'autres lieux à Québec. Nous, ça nous donne envie d'explorer d'autres monuments, d'autres lieux peut-être un peu cachés, secrets de la ville de Québec. Est-ce que ça donne l'idée à la Commission des Champs de Bataille d'explorer d'autres lieux historiques pour des jeux d'évasion? On en veut plus.
Là, c'est comme si on venait de se servir un gros repas sur la table, ça faisait 3 bouchées qu'on mangeait, puis qu'on disait, ben là, hey, c'est bon, faudrait le faire le prochain.
Excusez-nous.
Non, mais je comprends tout à fait l'enthousiasme, puis c'est ce qu'on espère, en fait, qui ressorte de ça. C'est ce qu'on espère que les gens fassent, justement, puissent voir ces sites-là d'une nouvelle façon. Puis, tu sais, pour faire un peu de millage sur ce que vous disiez, dans le sens que le 90 minutes, c'est ça aussi. C'est un lieu qui est exceptionnel, puis pour bien le découvrir à la façon de ce qu'à Double Tour nous proposait, il fallait se donner le temps de pouvoir justement permettre aux gens de découvrir ces 3 étages-là, donc ces 3 ambiances-là qui étaient créées. Mais c'est sûr que ça nous donne, ça a été très formateur pour nous, toute cette expérience-là. C'est des choses qui, tu sais, on deviendra jamais une entreprise de jeux d'évasion du jour au lendemain, parce que c'est pas ça notre mission, de produire des jeux d'évasion. Notre mission, c'est vraiment de faire connaître le patrimoine qui est géré par la Commission des Champs de Bataille nationaux, les Plaines d'Abraham, les Tours Martello, l'ensemble de ces choses-là. On en a plein d'histoires à raconter. On a trouvé ça très stimulant de se lancer dans cette aventure-là de jeu d'évasion. Comme j'ai dit, c'est vraiment une perspective qui est différente. Ça va chercher des gens qui sont pas... C'est pas parce que t'es un amateur de jeu d'évasion que t'es un amateur de musée, tu sais. C'est pas exclusif non plus, là. Je veux dire, il y en a qui sont les deux, mais c'est pas... dans le sens que... Et ce qu'on cherchait aussi, c'est justement donner donc une façon de s'amuser qui était différente, mais tout en rendant cette histoire-là qui était accessible. Par le passé, on a fait des présentations qui relevaient plus du théâtre que de l'animation ou que des visites guidées. On fait des animations qui sont très participatives aussi, donc c'est vraiment une façon de plus de le faire. C'est vraiment comme ça qu'on le voit. Est-ce que ça donnera d'autres maintenant pour répondre à la question? Ben, en effet, je pense qu'on va laisser la tourmenteuse vivre un peu, là. On va la laisser se développer, puis je pense que on a très confiance en ce qui s'en vient pour la tourmenteuse, mais... qui sait?
Parce que
on
c'est...
espère.
Oui, c'est très court. Ça va passer très, très vite hein, jusqu'au mois d'octobre 2019, puisqu'après, vous laissez place à des activités d'Halloween, me semble-t-il, dans cette tour Martello.
Oui, exact. On a déjà une grosse programmation d'Halloween, justement, pour le mois des morts. Nous, c'est l'Halloween et le mois des morts à la commission, donc ça s'étire jusqu'au mois de novembre. Donc, on a plein de choses qui vont se passer là aussi, donc pour un autre genre de public qui va venir découvrir d'autres choses, mais oui, en effet. Donc, ça va passer très vite. On est déjà quasiment essoufflé d'être rendu au mois de novembre, mais... ça regarde bien.
Mais quoi qu'il en soit, on peut souhaiter alors que l'activité revienne après l'Halloween. Désolé, on est gourmand.
Je vous dirais, après l'Halloween, c'est certainement à l'été. Parce que, comme okay. Je disais, on a des groupes à l'année pratiquement dans cette tour-là. Mais certainement à l'été, oui, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir quelque chose l'été prochain. Est-ce que ce sera la tourmenteuse? Est-ce que ce sera la tourmenteuse 2.0? Est-ce que ce sera la tourmenteuse 3.5? On ne sait pas. Mais on espère.
Alors, on le rappelle, vous pourrez jouer à la Tourmenteuse jusqu'au 13 octobre prochain. Il y a des parties du mercredi au dimanche, donc session de jeu de 1h30, vraiment du matin 10h jusqu'à même en soirée. Ça doit être une autre ambiance aussi, bien qu'on est à l'intérieur, on voit pas l'extérieur, mais en tout cas, peut-être l'humeur dans laquelle on arrive. Donc, jusqu'à 21h également. Allez sur le site de la Commission des Champs de Bataille directement, vous faites une petite recherche, la Tourmenteuse, et vous allez tomber là-dessus pour réserver vos billets. On conseille le jeu à partir de 12 ans, parce que quand même, il y a des choses à lire, à comprendre. On n'est pas dans un jeu facile d'évasion. Et c'est des groupes de 4 à 8 personnes. Et là, pour une fois, on peut dire qu'à 8 personnes, on serait peut-être pas de trop pour réaliser le jeu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Du moins, nous, on était 4. Peut-être que 2 personnes de plus, ça aurait été bien, Marc.
Ah ouais, 6, ce serait pas pire, je pense.
C'est ce qu'on vous recommande. Merci à nos deux invités, Luc Nicole Labrie, coordonnateur de la médiation historique à la Commission des champs de bataille.
Merci.
Et merci à Maxime Béchard, concepteur ludique pour À Double Tour.
Merci à vous deux.
Dans quelques instants, d'autres initiatives touristiques qu'on vous fait découvrir dans Cannes Directionnel et l'Empuvée à CKRL 89.
CKRL, communication, culture.
Si j'avais les ailes d'un ange, chantait Charlebois. Certains les ont eues.
Au tournant des années 2020, il n'était pas inutile de savoir, de se rappeler, de découvrir que la boucane a déjà existé, ainsi que quelques barbus. Come on, baby, take a chance with us.
Dans le numéro d'été de Nuit Blanche, Québec, psychédélique. Regard actuel, espiègle, critique, parfois acide sur ces années de révolte et d'utopie. Celle des communes, de la revue Mamise, des Jean Basile, Georges Cale, Denis Vanier. Abonnement, point de vente, numéro courant et archives dans nuitblanche.com. This is the end, beautiful friend.
Retour dans Cadenas Directionnel et l'Empuvée, Jessica Leb avec vous, toujours en compagnie de Marc Raymond. On l'a compris, on pouvait faire du tourisme dans notre propre ville à Québec avec l'initiative de la tourmenteuse qui nous est présentée en ce moment à la Tour Martello-Cat. Mais c'est une émission sur le tourisme dans Cadenas Directionnel et l'Empuvée qu'on vous propose aujourd'hui jusqu'à 20h30 sur les ondes de CKRL. Donc on a envie de vous faire voyager aussi. C'est certainement d'ailleurs la question qui revient le plus souvent sur le groupe Accro de Jeux d'Évasion. Marc, quelle est cette question?
Oh, même pas sur le groupe Accro de Jeux d'Évasion, sur tous les groupes, dans toutes les langues confondues, tous les groupes d'accro sur Facebook, sur les réseaux sociaux. La question qui revient le plus souvent, c'est quel jeu dois-je faire dans cette ville X, que ce soit New York, que ce soit LA, Montréal? C'est la question que tout le monde se demande. Donc, les gens voyagent. Il y en a quelques-uns qui vont voyager spécifiquement pour faire des jeux d'évasion. Ils vont choisir leur destination en fonction des jeux qu'ils veulent faire. Mais la majorité des gens, eux, donc, vont voyager soit pour le travail, pour le plaisir, mais ils vont pas choisir ça. Ils vont pas choisir leur destination en fonction d'un jeu en particulier, mais sachant qu'ils vont aller à tel endroit, peu importe où, ils vont aller en France, ils vont aller en Russie, ben la première chose qu'ils vont faire, du moins, moi, la première chose que je fais quand je sais que je vais partir en voyage, ben, je cherche pas un hôtel, mais je cherche un jeu d'évasion.
Ça, c'est le syndrome de l'accro par excellence. Alors, on a envie de vous faire faire des escales à travers le Québec avec des initiatives où on a conçu un jeu d'évasion exprès pour attirer le touriste. Alors, première escale, Saint-Jean-de-Mata. On est à 2h30 de route de Québec dans Lanaudière. Et si on se dirige vers la Maison Louis-Cyr, devinez ce qu'on trouve. Un jeu d'évasion, bien sûr. C'est sorti de la tête de Benoît Gagné, directeur général de la Maison Louis-Cyr. Bonjour Benoît.
Bonjour Jessica.
Benoît, raconte-nous un petit peu, parce que bon, Marc a fait le voyage sans moi. Je l'avais autorisé cette fois-ci à partir sans moi, je dois l'avouer. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est la Maison Louis-Cyr? On connaît le personnage Louis-Cyr, l'homme le plus fort au monde, qui a résidé à Saint-Jean-de-Mata d'ailleurs.
Effectivement. En fait, il a passé la majeure partie de sa vie à Saint-Jean-de-Mata. C'est ce qu'on ne sait pas souvent. Il est arrivé à Saint-Jean-de-Mata déjà à l'âge de 18 ans. Il a habité Saint-Jean-de-Mata jusqu'à son décès à l'âge de 49 ans. Donc, c'est quand même une bonne partie de sa vie. Puis nous, ce que nous avons fait, en fait, nous avons acheté une maison dans laquelle il avait véritablement résidé. Alors, on a acquis cette maison-là en 2011 et puis on l'a restaurée exactement comme elle était à son état d'origine, donc à l'époque où Louis-Cyr l'a habité à partir de 1902. Et on en a fait un musée qui permet aux gens de découvrir vraiment la vie de ce personnage vraiment incroyable qu'on gagne à apprendre.
Donc évidemment, quand on vient à la Maison Louis-Cyr, on vient connaître ce personnage, mais vous avez décidé d'y intégrer un jeu d'évasion, et c'est pas la première fois cet été, puisque vous aviez déjà fait deux jeux d'évasion auparavant.
Effectivement, c'est déjà notre troisième édition. L'idée est venue l'été dernier. Dans la Maison de Louis-Cyr, on a une salle qui est en fait à l'origine, qui était la chambre des maîtres, qui est une grande salle, et puis on s'en sert souvent pour faire des expositions temporaires. Donc, on accueille des artistes, des artisans, des choses comme ça. Et à l'automne dernier, j'avais rien de programmé. Puis, j'ai une amie qui venait de faire un jeu d'évasion, puis qui me dit, « Hey, Benoît, il me semble que ça serait le fun, un jeu d'évasion à Maison Louis-Cyr, tu devrais penser à ça. » Puis, comme j'avais rien, je dis, « Pourquoi pas? Hein? » C'est une activité où on sait qui attire énormément, qui attire une clientèle également qu'on n'a pas souvent dans les musées, donc les 18-35 ans, un petit peu plus difficile d'aller chercher cette clientèle-là. Et avec les jeux d'évasion, on a commencé, en fait, à la mi-septembre. J'ai dit, essayons-le, on va le faire sur 3 fins de semaine. Advienne que pourra, on verra ce que ça va donner. Alors, on a lancé ça à la mi-septembre en disant qu'au début octobre, c'était pour être terminé. Puis, finalement, comme vous le dites, nous en sommes rendus à notre troisième jeu d'évasion cet été. Alors, on n'a pas eu le choix d'en créer d'autres. Après, le premier, évidemment, était basé sur Louis-Cyr, évidemment. On peut pas passer à côté. Mmh. Et puis, par la suite, les joueurs nous demandaient est-ce que vous pourriez en faire un autre. Donc, bon, arrivé au temps des fêtes, on a décidé d'en faire un sur une thématique Noël. Et on avait encore une demande qui continuait. Vous devriez faire ça tout le temps. Je suis un peu parti à rire. C'est quand même pas notre mission. Notre mission demeure de gérer le musée. Puis on s'est dit, pourquoi pas offrir un produit complémentaire. Comme je disais aussi avec Marc lors de son passage, c'est un jeu d'évasion sans prétention. On peut pas comparer aux gens qui font ça à temps plein, les entreprises que c'est leur mission. Nous, notre mission demeure le musée. Mais on s'est dit pourquoi pas offrir un produit complémentaire. Puis surtout quand on a vu la réponse des gens qui aiment ça, un beau jeu d'évasion qui permet aux gens de s'initier souvent au jeu d'évasion. Quoi que je dise ça, j'ai des gens qui sont venus, que ça faisait 20-30 fois qu'ils faisaient des jeux d'évasion, qui me disaient qu'ils trouvaient leur compte quand même dans notre jeu d'évasion.
Mm-hmm. Mais Marc, parle-nous de cette mission à laquelle tu as dû te confronter, la confrérie des Matalois, Force en péril.
Oui, bon, alors... sont bizarres. OK, donc on est à Saint-Jean-de-Mata et là, il y a un drame terrible qui se passe. Les vilains, les méchants non-Mata ont installé un inhibiteur de force. C'est bien ça, Benoît?
Oui, c'est bien ça.
Wow! Donc, installe ça et ça vole toutes les forces de la région. Et là, on parle pas de la force de Louis-Cyr, mais on parle des forces... de la région qui vont être la nature, la gastronomie et le troisième, c'était?
La culture,
excellent. Donc, les non-Mata veulent faire sombrer Saint-Jean-de-Mata, si vous voulez, dans l'oubli. Et nous, on est là pour s'assurer que ça n'arrive pas, en fait.
Alors, mais Marc, comment tu as trouvé cette mission? Parce que justement, quand Benoît nous parlait d'accros, d'habitués qui viennent faire des jeux d'évasion, tu t'attendais évidemment en arrivant dans un musée à ce que le jeu d'évasion soit accessible d'un niveau, accessible encore une fois pour que tout le monde puisse se plier à cette mission?
Oui, mais c'est un niveau qui est accessible. Il n'y aura pas des énigmes excessivement complexes, mais... le jeu, il y a quand même un niveau intéressant. On a déjà joué des salles conçues par des entreprises de jeux d'évasion qui étaient beaucoup plus faciles que ça, qu'on est ressorti beaucoup plus rapidement. Donc, il y a quand même un défi qui est certain. Ensuite, oui, on est dans un bureau d'information touristique. Donc, la chambre de Louis-Cyr a été transformée en bureau d'information touristique. C'est quand même une salle qui est assez sobre, mais qui est crédible. Parce que moi, c'était la première fois que j'allais au musée. Et avant qu'on me dise que cette pièce-là servait habituellement pour faire des vernissages ou des expositions, j'étais certain que c'était la section information touristique du musée.
Ça me fait plaisir, Laurent.
Mais oui, parce que même un décor qui peut être anodin, quotidien, il faut quand même le réussir pour que les joueurs s'y croient du début à la fin. Donc, c'est quand même une mission de 60 minutes, hein, mine de rien, qui est proposée à la maison Louis-Cyr. Benoît Gagné, je rappelle que tu es directeur général. Est-ce que c'est toi qui as bâti le jeu de A à Z, le jeu dont on parle?
Oui, effectivement. C'est moi qui s'est creusé les méninges pour essayer de trouver... une façon de promouvoir, hein, comme Marc disait, là, les forces de Saint-Jean-de-Mata puis le bureau d'information touristique, l'idée est venue de vouloir faire la promotion non seulement du musée de Louis-Cyr, mais également des attraits qu'il y a à voir à Saint-Jean-de-Mata. Parce que souvent, on l'oublie, il y a quand même une quinzaine d'attraits majeurs là, à faire à Saint-Jean-de-Mata. Donc, l'idée était de faire un petit peu la promotion. Donc, c'était de concevoir effectivement ce jeu-là là, en ayant toujours en tête qu'on qu'on allait promouvoir nos amis et collègues de la région de la Nadière.
Mmh. Et que les gens ne viennent pas juste pour la maison Louis-Cyr, le jeu d'évasion, et repartent par après. Ils peuvent donc explorer les autres attraits après avoir fait le jeu. D'ailleurs, Marc m'a dit que le musée était très intéressant, que lui, il avait lui-même appris beaucoup de choses sur Louis-Cyr, évidemment.
C'est sûr que c'était un des objectifs aussi lorsque j'ai conçu le premier jeu d'évasion. Ça continue de l'aide, justement, d'attirer des gens qui, honnêtement, ne seraient pas venus au musée si ce n'était pas du jeu d'évasion. Ça, j'en ai eu plusieurs, là. Des gens qui disaient, on serait pas venus si vous aviez pas fait le jeu d'évasion, mais vous avez un beau musée. Donc, ça nous permet de se faire connaître, justement, auprès d'une clientèle qui serait peut-être moins venue ou qui n'aurait pas eu comme idée de faire un arrêt à Saint-Jean-de-Matin.
Benoît Gagné, le plus grand défi pour concevoir un jeu d'évasion, parce que comme tu dis, c'est pas ton métier. Au départ, tu gères un musée. Là, quel a été le plus gros défi? Tu commences à en avoir deux derrière la cravate. Là, c'est le troisième, mais quand même, est-ce qu'il y a un défi qui revient à chaque fois?
Le défi, c'est que de réussir à faire un jeu d'évasion qui est quand même intéressant avec un budget infiniment petit. Donc, on sait que les gens qui font des jeux d'évasion vont faire les grandes salles, les petites salles, mais comme j'avais expliqué à Marc, c'est sûr que quand on commence à nous comparer à des grandes salles, j'ai pas ce budget-là. Donc, c'est le plus gros défi d'être très, très innovateur, très imaginatif pour pouvoir sortir un jeu qui se tient, un jeu qui est intéressant, mais avec un budget très très petit et un peu de temps aussi, comme je peux pas me consacrer à temps plein à la création de ces jeux-là, parce que c'est pas juste la création sur papier là, c'est moi qui le fais de A à Z, donc création sur papier autant que l'installation matérielle et tout là. Alors je dirais c'est les deux enjeux principaux là, le budget et le temps.
Est-ce que tu avais toi-même fait beaucoup de jeux d'évasion pour t'inspirer pour créer les tiens par après?
J'en ai pas fait beaucoup, honnêtement. J'en ai fait quelques-uns pour effectivement avoir une idée. J'avais une amie qui en avait créé un aussi, qui m'a donné un bon coup de main lors du premier jeu qu'on a fait l'an dernier. Et puis, évidemment, beaucoup de recherches Internet, essayer de voir là, les gens, qu'est-ce qu'ils aimaient dans les jeux d'évasion, qu'est-ce que ça prenait. Et c'est sûr qu'un blog comme Les Captivés m'a permis de voir aussi là, les trois catégories, là, la fouille, les réflexions, manipulation, voir un peu comment me diriger dans tout ça. Donc, c'est comme ça. J'étais assez autonome, je vous dirais, autodidacte, disons.
Ben, bravo, il faut oser. Et apparemment, c'est réussi d'après l'expérience de Marc que j'ai pu entendre. Alors, on le rappelle, la maison Louis-Cyr est située à Saint-Jean-de-Matin. On est à 2h30 de route de Québec environ. Le jeu d'évasion et le musée sont ouverts du mardi au dimanche. Il y a 3 créneaux horaires par jour. Donc, si on veut réserver, ça se passe directement en ligne ou sur place?
Oui, en fait, vous pouvez réserver, si vous allez en ligne sous l'onglet maisonlouiscyr.com, onglet jeu d'évasion, vous allez trouver toutes les informations et le calendrier également qui vous permet de voir si les départs sont libres ou réservés. On peut pas faire la réservation directement à partir du calendrier, mais ça vous donne une idée là, de voir les plages qui sont disponibles. Mmh. Et à ce moment-là, pour faire la réservation, vous n'avez qu'à nous écrire par courriel info@maisonlouiscyr.com ou par téléphone 450-886-1666.
Et le jeu d'évasion est proposé jusqu'au 2 septembre prochain, si vous aussi, vous voulez vous confronter à cette confrérie. Et après, alors, il y aura un numéro 4, Benoît.
on ne sait pas.
Comme c'est bien parti.
Je me laisse bercer par les gens. Si les gens nous le demandent, pour l'instant, je vous dirais qu'on continue, c'est certain. On va voir si j'aurai le temps d'en faire un quatrième, mais c'est fort probable.
Bon, en tout cas, bravo. Nous, on salue l'initiative et l'audace d'intégrer un jeu d'évasion dans les musées. C'est encore rare au Québec et la maison Louis-Cyr a su flairer l'occasion. Je rappelle aussi, c'est une bonne chose à savoir, que votre entrée au musée, inclut le jeu d'évasion, c'est ça? Non?
C'est l'inverse, effectivement. Ouais. Le tarif du jeu d'évasion, c'est 25$ pour le jeu d'évasion, taxe incluse, mais ça inclut la visite du musée également. Donc, c'est pour ça qu'on voulait le faire comme ça aussi, que ce soit vraiment un forfait. C'est-à-dire, en venant visiter la maison Louis-Cyr, vous avez l'occasion de faire le jeu d'évasion ou vice-versa. Mais c'est ce qui nous permet d'aller chercher plus de gens. Puis l'objectif est toujours, évidemment, d'attirer des gens à notre musée pour que les gens puissent découvrir l'homme qui était Louis-Cyr, l'homme extraordinaire qu'il était. Donc, c'est une belle façon d'y arriver.
Merci beaucoup, Benoît Gagné, directeur général de la maison Louis-Cyr. On vous souhaite encore une belle saison, alors, du côté de la Nadière.
Ben, merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de me parler, puis à Marc d'avoir fait le jeu.
Ça fait plaisir.
On t'attend pour faire le jeu bientôt.
Oui, c'est avec beaucoup de regrets, effectivement, il va falloir que je me rattrape. Merci encore.
Merci.
Dans quelques instants, on vous parle d'une autre initiative au Québec. Alors cette fois, on change de direction, on va aller à l'Île Verte, où c'est carrément une initiative collective de résidents de la municipalité qui ont décidé de bâtir un jeu d'évasion dans une roulotte. Ça sera juste après Alexandre Béliard. On parlait de Louis Cyr. Voici une chanson qui lui est clairement consacrée.
Né d'une famille de 17 frères et sœurs, un peu bûcheron, un peu cultivateur, Louis fut policier, haltérophile et tavernier. Dans les camps bûcherons à 13 ans, il était déjà tout puissant. Il avait les cheveux longs pour ressembler à Samson. Fort comme un train, plus de 300 livres, le cou gros comme ça, c'est vrai, je te le dis. Bâti pour renverser des titans, Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Louis, un vrai larron en foire, soulève 6 hommes dans une baignoire, 2 autres sur une porte de grange. Un wagon qu'il pousse se dérange, ses exploits épatent la galerie, en Europe, aux États-Unis. Il se produit de ville en ville, avec sa petite troupe en famille, bâti pour renverser des titans. Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Il affronte le géant pauvre qui s'écroule du haut de ses 8 pieds. Tant d'exploits restent inégalés. Louis est un peu fatigué. Il repose à Saint-Jean-de-Matha, où autrefois il épousa Mélina, sa tendre moitié, qui fut toujours à ses côtés. Bâti pour renverser des titans, Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps. Bâti pour renverser des titans, Louis Cyr, l'homme le plus fort de tous les temps.
Voilà, si on ne savait pas qui était Louis Cyr, bah Alexandre Béliard vient de nous le résumer dans cette chanson du même nom. Vous êtes toujours dans Cadenas Directionnel et Lampe UV, Jessica Leb avec vous, avec Marc Raymond. On continue notre voyage aujourd'hui, puisque notre émission consacrée aux jeux d'évasion, aujourd'hui l'angle qu'on a choisi c'est le tourisme, les jeux d'évasion qui appellent au tourisme. On a parlé de la Tourmenteuse à Québec, on vient de faire un arrêt à Saint-Jean-de-Matha dans la Naudière. On se dirige maintenant vers le Bain-Saint-Laurent avec Évasion Île Verte. Mais avant ça, Marc, on pourrait faire d'autres arrêts aussi qu'on aimerait vous mentionner, des initiatives qui, elles aussi, ont appelé au tourisme dans leurs villes respectives. On voulait les mentionner parce que certaines sont toujours en cours.
Oui, effectivement. Donc, il y a à Drummondville, en partenariat avec l'Issue Jeu d'évasion, il y a la Maison Trent qui offre un jeu d'évasion. Aussi, sur l'île Sainte-Hélène à Montréal, le musée Stuart propose un jeu d'évasion. C'est dans le dépôt militaire britannique de l'île Sainte-Hélène. Donc, eux aussi proposent un jeu d'évasion. Un autre musée qui en offre un. Et enfin, ça c'est terminé par exemple, mais à Montréal aussi, il y a eu Échappe-toi qui a eu fait un jeu d'évasion géant au musée des Beaux-Arts de Montréal. Donc, on voit que quand même, le jeu d'évasion sort dans les musées. On le voit, il y en a des initiatives comme ça à Paris aussi, ou même
en Europe un peu partout.
En Europe un peu partout, ouais. Mais si on prend des endroits où ils amènent des jeux d'évasion, effectivement, comme l'Opéra de Paris, ont leurs jeux d'évasion aussi. Donc, on voit que ça s'en va partout dans les endroits culturels, dans les musées.
Et bien souvent, ça doit durer à peine quelques mois et il prolonge à chaque fois. C'est le cas de l'Opéra de Paris qui, ça, maintenant, ça fait un an que ça dure tellement le succès a été au rendez-vous. Alors, je vous le disais, on s'arrête maintenant à l'Île Verte avec Évasion Île Verte qui propose une mission autour d'un colis suspect qu'on va devoir retrouver avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ce jeu d'évasion est proposé dans une roulotte à la halte routière à côté du bureau d'information touristique de l'Île Verte. Pour en parler, on est avec l'une des initiatrices du projet, Sandra Saint-Jean. Bonjour Sandra.
Salut.
Sandra, raconte-nous un petit peu d'où est venue cette idée de faire un jeu d'évasion à l'Île Verte, parce que pour vous, le jeu d'évasion le plus proche est à au moins une heure de route. On parle de Rimouski, hein.
Oui, on a aussi à Rivière-du-Loup qui est à 30 minutes, mais eux, c'est plus du corporatif. Mais oui, à Rimouski, c'est essentiellement des jeux d'évasion. Nous, c'est ça. On était un petit groupe de bénévoles qui avait à cœur le développement de notre milieu. On voulait faire...
J'ai perdu, pardon, Sandra. On va la rappeler tout de suite. Pendant ce temps-là, Marc, peut-être nous résumer la mission qui nous attend à l'Île Verte.
Oui, ben, pas de problème. En fait, donc, la mission s'appelle le City of Quebec, colis suspect. Donc, le City of Quebec est un navire qui a coulé pas trop loin de l'Île Verte, en fait. Mais donc, on va se promener sur le bateau avant que le drame arrive. Dans ce jeu-ci, on doit infiltrer ou entrer dans la cabine du capitaine pour fouiller dans les registres pour trouver donc les cinq colis suspects qui contiendraient des pièces pour fabriquer une bombe et ainsi trouver le suspect qui aurait amené là tout ce matériel à bord pour faire couler le navire. Donc on a encore là une heure dans la cabine du capitaine pour réussir à démasquer là, le saboteur.
Et on a retrouvé Sandra en ligne. Oui. Vraiment désolée, c'est moi qui l'ai échappé. Sandra, tu nous disais que vous êtes une équipe de personnes très impliquées dans votre communauté. C'est pour ça que vous avez créé ce jeu dont vient de nous parler Marc.
Exactement. Donc, c'est ça. Mes amis et moi, on a décidé d'en faire bénéficier, de faire connaître aussi. Évasion, comme tu disais, chez nous, il n'y en a pas vraiment. Donc, souvent, pour les gens locaux, c'est une première expérience, puis on essaie de lui donner la piqûre pour qu'ils fassent un peu comme nous, puis qu'on fasse le tour du Québec à faire d'autres expériences d'évasion ici et là. J'ai rendu l'utile à l'agréable.
Ben oui, il fallait bien. Et vous avez impliqué vraiment toute la communauté à créer ce jeu d'évasion parce que vous avez mobilisé beaucoup de bénévoles autour de ce projet.
Exactement. J'ai eu des gens pour faire la roulotte parce que en fait c'est un monsieur qui nous l'a donné gratuitement, mais elle avait eu un dégât d'eau. C'est une entreprise de Capuna qui nous l'a donné. Fait que là, ça a pris un entrepreneur pour la transformer, pour pouvoir accueillir des touristes. Il fallait que ça ait l'air un peu professionnel. On a eu des gens qui nous ont aidés aussi pour le site web, composer des textes, faire le visuel. On a eu des gens qui sont venus nous aider pour l'histoire. Samuel Côté, le chasseur d'épaves, qui a trouvé le City of Québec, lui, je vais le retrouver. En tout cas, Samuel Côté qui nous a donné tous les textes, puis il nous a aidé beaucoup, là. Donc, c'est ça.
Et de là, vous avez ensuite ouvert le jeu d'évasion dans cette roulotte. Particularité, comme on disait, c'est sur une halte routière. Donc déjà, vous trouvez, c'est un défi parce qu'on s'attend pas à vous voir là. Quel genre de joueurs vous attirez finalement? Est-ce que c'est autant des locaux que des gens qui s'arrêtent sur la route pour aller en Gaspésie, par exemple?
Souvent, les gens arrêtent justement à demander des informations pour aller, on va dire, la Gaspésie. Puis ils disent, là, on n'a pas le temps, mais on va le refaire en revenant. Puis pour vrai, ils tiennent leur promesse. On a eu des touristes comme ça qui l'ont fait en revenant. On a beaucoup de locales de la région autour, là, des municipalités autour qui viennent s'amuser ici, directement dans notre municipalité. Les gens l'essayent. Donc, on a un peu de tout, là.
C'est une très bonne initiation au jeu d'évasion, d'ailleurs, hein, pour tous ceux qui n'en auraient pas encore fait, qui nous écoutent et qui se disent, bon, à un moment donné, je vais y aller dans un jeu d'évasion. Vous êtes quand même dans un jeu, encore une fois, très accessible. On retrouve un peu les grands classiques du jeu d'évasion. Vous êtes quand même creusé la tête pour certaines énigmes pour rester en lien avec la thématique maritime, par exemple.
Oui, mais on s'est organisé pour que même si c'est des gens qui en ont jamais fait, soient capables de s'amuser. On a 5 colis suspects, donc 5 billes de livraison à trouver. Il y en a 3 à 4 qui sont relativement faciles. Il y en a un qui s'avère un peu plus difficile, mais les gens ont l'impression qu'ils s'amusent puis qu'ils sont sur le bord de réussir. Donc, il y a personne qui s'ennuie puis qui tourne en rond à être bloqué sur quelque chose. Il n'y a pas de suite logique dans le jeu. On peut commencer autant par l'avant-dernier que le premier, là.
Et Sandra, quand on est sorti de la roulotte, tu nous disais que tu avais déjà plein d'idées pour étendre le jeu d'évasion à la grandeur de l'île verte en impliquant encore plus de monde.
Oui, à l'île verte, on est chanceux. On a des endroits stratégiques comme la maison de Louis Bertrand. C'est un seigneur ici qui a habité à l'île verte et qui a contribué beaucoup à son développement. On a la cour de circuit qui est un ancien palais de justice où ils ont quand même eu des causes que les gens ont entendu parler. Donc, c'est des places où on a l'église qui, nous aussi, pour notre municipalité, est en pour parler de faire autre chose qu'une église. Là, tout le monde essaye de recycler les églises. Donc, nous ici, il y a un projet de salle communautaire. Donc, ça serait intéressant de faire d'évasion l'île verte, pas juste un endroit, mais bien une expérience locale, de faire des jeux d'évasion dans ces endroits-là thématiques. Je pense qu'il y a matière à faire de l'expansion. Cette année, c'était un projet pilote. On est bien contents. On a un taux de participation quand même très intéressant. On avait un objectif de 250 personnes. Je vous dis un scoop, là, le 6 août aujourd'hui, 260 personnes ont fait le défi à l'île verte. Donc, on a atteint l'objectif maintenant. Ben tant mieux, on fait du plus.
Donc, ça se peut que ça dure plus longtemps ou dans tous les cas, ça sera jusqu'à la fin de l'été seulement?
Non, ça peut pas durer plus longtemps. Le 2 septembre, un pour le climat, là, dans la roulotte, il y a un air climatisé, mais on n'a pas du chauffage. Puis deux, le manque, pas le manque de main-d'œuvre, mais les gens, les maîtres de jeu, eux, ils retournent à l'école après la fête du travail. Donc, c'est plus difficile. Le kiosque touristique ferme ses portes. Peut-être sur demande, là, avec réservation, j'irai m'amuser à faire le maître de jeu, mais officiellement, il est fermé le 2 septembre.
Alors, vous avez jusqu'au 2 septembre si vous voulez essayer ce jeu à Évasion Île Verte. Je vous le rappelle, on réserve sur le site internet directement évasionilleverte.com. C'est jusqu'à 6 joueurs. On vous recommande 4 joueurs, nous, ou même 3-4 joueurs pour avoir une expérience optimale. On y allait avec 2 enfants, puis ils se sont amusés tout comme nous, comme dans ce genre d'activité. Sandra, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On salue encore votre projet à l'île verte, puis on espère, oui, avoir une expérience, le village jeu d'évasion très bientôt alors.
Mais merci de l'intérêt que vous avez porté puis de vous être déplacé. On vous attend peut-être l'année prochaine.
Qui sait? Merci Sandra Saint-Jean.
Bye bye.
Sandra Saint-Jean, initiatrice de ce projet. C'est terminé pour aujourd'hui, cadenas directionnel et Lampuvé. On vous rappelle que si vous voulez toutes les informations sur les jeux dont on vous parle, c'est lescaptivés.com par exemple. Pour nous retrouver, il y a la balado, il y a les jeux qu'on a testés dont on vous a parlé aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. On parlera ambiance sonore avec des concepteurs sonores. Comment faire une bonne ambiance sonore pour un jeu d'évasion? À la semaine prochaine, Marc.
Salut Jessica.
Dans quelques instants, la loi du rock avec Chucky McDonald. Bonne soirée.
Cette émission est disponible en balado-diffusion.